Einstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Philippe Rossignol, qui publie « Vie électrique » chez Gallimard dans la collection « L'infini ». J'apprends à me taire quand quelqu'un dit quelque chose de vrai. J'écoute. J'aurais pu dire aussi bien, Jean-Philippe Rossignol, l'ancien des jours est toujours jeune.
Oui, c'est Herman Melville, oui. C'est très beau cette phrase qui commence par l'écoute. Enfin, je dis c'est très beau, c'est un peu stupide parce que c'est moi, mais pardon. Mais oui, c'est vraiment un livre sur l'écoute et sur les jours. Et le livre est construit comme ça en 30 journées. Où le narrateur se déplace et écoute aussi les autres lieux, l'Allemagne, l'Espagne, Trieste et d'autres endroits, New York aussi. Voilà.
C'est votre premier livre en fait.
Oui, exactement.
Les livres, vous connaissez.
J'en lis quelques-uns, oui, depuis quelque temps.
Il y a ceux que vous lisez chaque jour, par exemple, ce volume. De Melville, dans la collection Poésie Gallimard.
Oui.
Votre lecture de ce jour.
Mais oui, je suis arrivé ici et j'ai commencé les poèmes de guerre d'Herman Melville que je connais pas. Je connais Pierre ou les ambiguïtés, j'ai lu Moby Dick, Billy Budd. Mais je ne connais pas ce recueil qui est traduit par Pierre Léris. Et en, voilà, il y a ces vers qui sont très beaux où il dit. The enchant of days forever is young, forever the shim of nature thrives. I know a wind in purple strong, it spins against the way it drives. L'ancien des jours est toujours jeune, le plan de la nature toujours en bonne voie. Je sais un vent qui tourbillonne, à rebours du sens où il va. Et j'aime beaucoup de savoir un vent qui tourbillonne, je trouve ça très beau.
Quand vous tombez comme aujourd'hui sur des... lignes qui vous touchent, que vous aimez, vous avez envie de les lire à haute voix et de les faire partager à la cantonade.
Oui. Non, je sais aussi me taire, justement. Mais quand c'est extrêmement beau, oui, j'ai envie. Enfin, tout dépend avec qui je suis. Mais j'ai envie de les faire entendre, oui. De faire entendre la beauté, ça peut être un pari aujourd'hui.
C'est un peu ce que vous faites aussi dans votre livre « Vie électrique », sous-titré « Roman », si j'ai bien lu. Mm-hmm. Hein, quelquefois, il y a des lettres qui nous échappent. Roman, alors que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on attend habituellement d'un roman.
Mm-hmm. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on attend d'un roman aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on attend une histoire, des personnages? Jusqu'ici, il y a des personnages et une histoire. Après, est-ce qu'on attend une suite linéaire de faits, une logique, une acmé, des rebondissements, je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, la forme comme ça dédiée à ces peintres, à ces écrivains, à ces musiciens, pour moi, est romanesque. C'est-à-dire que leur vie, leurs actes, leurs œuvres... prouve une foi totale dans l'action, dans la vie et dans une manière épique et poétique de vivre.
Le mouvement dans ce roman est donné par un certain nombre de verbes.
Mm-hmm.
Voyager, par exemple, lire, écouter,
danser,
regarder.
Oui.
et vous passez de l'un à l'autre à partir d'un personnage qui est le narrateur, mais qui est un narrateur qui a sans doute quelques points communs avec vous.
Le jeu du livre est à la fois réel et inventé. Donc il y a, et d'ailleurs peu importe qu'on me retrouve ou pas d'ailleurs, et j'aime cette indistinction, ce passage comme ça entre les deux personnes qui parlent, qui prennent la parole. Et le début du livre s'ouvre de manière un peu féerique, comme ça on ne sait pas vraiment où on est, enfin, on sait qu'on est à Berlin, mais il n'y a pas de zone précise, il n'y a pas de sexe précis, il n'y a pas de désir précis. Et au contraire, c'est dans cette indécision et dans cette imprécision qu'on devient encore plus précis, je trouve. Et les deux personnages, Petra et Marlène, qui ouvrent le livre, sont prêtes à mener cette sarabande des 30 jours. Donc, c'est-à-dire que le narrateur, Marlène, commence à Berlin, et puis de ville en livre, de Fra Angelico à Watteau, de Kerouac à Fitzgerald, on va pouvoir comme ça suivre la trajectoire de cet homme qui porte le prénom d'une femme au début du livre.
En passant donc de ce jeu réel à un jeu fictif, entre les deux, du jeu.
Exactement, oui. Oui, parce que le jeu qui est inventé, notamment dans « Juillet à Cambridge » ou « Hey Charlie Parker, te voilà », c'est un jeu qui ausculte comme ça la jeunesse, qui triture une matière, et en même temps ce n'est pas moi. Voilà. Mais ça pourrait être moi.
Vous dites la jeunesse, c'est important de noter cette couleur-là d'une génération.
Le mot de génération, je ne l'aime pas. Ou alors il faut l'entendre comme Kierkegaard à la fin de Crainte et tremblement, où il parle de ce que peut être une génération. Mais là, on est dans un sens à la fois biblique et humain. Et aujourd'hui, quand on emploie ce mot de génération, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est justement générationnel, et tout ce qui me fait horreur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais la jeunesse, oui, mais parce que c'est pas lié à un âge. C'est lié à un état d'esprit, c'est lié à une vibration, c'est lié à l'amour. Voilà.
Alors, si on répondait, si on tentait de répondre à la question souvent posée par de futurs lecteurs, mais qu'est-ce que ça raconte ? La relation, quelle est la relation ? On peut dire que c'est une relation d'incertitude.
D'intranquillité, d'incertitude, peut-être. Et en même temps de certitude aussi. C'est-à-dire qu'il y a dans toutes ces journées, et de faire l'expérience du temps, parce que ce que j'aime aussi, c'est de prendre ce livre comme un moi et de vivre un moi avec ce livre. C'est aussi l'expérience que l'on peut faire. C'est aussi la certitude dans les figures que je décris, que j'aime, que j'essaie de déployer dans le livre, oui. Donc certitude, avec évidemment des moments de flottement.
Parce qu'il y a un rythme.
Oui. ça j'y crois. À la cadence. Et à la musique, évidemment. Souvent on dit, ah oui, cette petite musique, pour parler d'un livre, ce qui me semble toujours un peu étrange, mais il n'y a pas de petite musique, il y a la musique, et un livre est musical dans sa composition, dans sa gamme, dans sa forme, dans ses variations, dans ses chutes, dans ses reprises. Donc ça je suis attentif dans la forme d'un livre à la musique, oui.
Qui est aussi dans une relation au temps, hein, puisque c'est un des grands sujets de la vie électrique, le temps. Le temps, malgré les blessures, dites-vous.
Oui, malgré les blessures, avec elles, contre elles. Elles sont liées à mille choses et en même temps elles ne sont pas cruciales. Il faut savoir les écarter. Il faut savoir les... non pas les nier, mais leur donner la place qu'elles méritent.
Et garder un gai savoir.
Oui. La Gaia Scienza, oui. C'est ce qui est le plus difficile, d'ailleurs. Parce que la lutte est politique. Un corps dans l'espace lutte contre son temps. Avec joie aussi. Mais c'est là que l'inquiétude peut arriver et en même temps où on peut la contredire, l'écarter, la minimiser.
L'allégresse.
Oui.
Oui.
Allegro vivace.
Le romantisme morbide, non.
Non. Oui. Oui, en même temps, j'aime beaucoup les romantiques, mais allemands. J'aime beaucoup Novalis, particulièrement. Je le lis beaucoup et je me sens proche de lui. Dans son rapport à la nécessité d'écrire aussi. Ça, oui. Mais les romantiques français, beaucoup moins. Ou alors, ce ne sont pas des romantiques. Baudelaire, Nerval.
Cette nécessité d'écrire, elle est claire à vos yeux, aujourd'hui?
Non.
Après un premier livre?
L'écriture du premier livre, justement, renforce l'écriture. Et je ne m'y attendais pas. Au contraire, j'étais persuadé que ce serait plus simple ou finalement qu'il ne pourrait rien y avoir derrière. Ce que je crois aussi, d'ailleurs. Mais ça renforce la difficulté. Mais ça, c'est assez bien, d'ailleurs. J'aime bien ce rapport. Pas à la souffrance dans l'écriture, mais au fait que ça soit oui, complexe, difficile, qu'il faille s'y atteler.
Donc la nécessité, peut-être qu'elle va venir sans crier gare. On la sollicite pas avec des mots ou avec une plume, mais peut-être avec les oreilles, en écoutant, comme on disait au début de l'émission.
Oui, bien sûr.
Dans l'écoute.
Exactement. Dans l'écoute et dans la vision. C'est pour ça que Watteau m'intéresse beaucoup et que le portrait du Gilles me retient particulièrement, j'en parle.
Et, il est même là,
oui.
En noir et blanc.
Oui.
Vous avez mis quelques images dans le livre.
Oui, il y a une photo d'Alix Cléroubeau, un très beau portrait de cette photographe. L'auteur d'un très beau journal dans les années 80, qui aimait beaucoup la musique, elle aussi d'ailleurs. Elle écoutait beaucoup Bach, Buxtehude, et elle aimait évidemment la photographie et la poésie. Mais oui, il y a aussi Sarah Vaughan qui chante les yeux fermés. Il y a une photo de Faulkner en 42 à Hollywood où il est torse nu, dans une position assez décontractée, se disant « Ah, Hollywood m'attend, il faut donc que j'écrive des scénarios. » Ce qui était une horreur pour lui. Parce qu'il appelait ça la mine de sel, Hollywood. Et les images qui sont dans le livre, elles ne servent pas comme des illustrations. Elles viennent aussi ponctuer le livre. Ça, j'y tenais. J'en ai choisi peu. J'ai essayé de bien les choisir. Et j'ai essayé aussi de bien les placer.
Mais vous qui êtes par ailleurs éditeur, on ne l'a pas encore dit, vous avez dû remarquer que c'est une tendance plus répandue aujourd'hui, depuis Sebald, en gros.
Et bizarrement, c'est pas du tout Sebald qui m'a donné envie de donner quelques images comme ça. C'est au contraire ces images qui se sont imposées. Et je n'ai pas réfléchi en termes de référence ou de source première. Parce que finalement, je ne me sens pas si proche que ça de Sebald. je l'aime bien comme ça, mais je le trouve terriblement noir.
Oui, vous ne trouvez pas l'allégresse.
Non.
Quelle a été l'influence de la musique sur l'écriture d'un livre comme La vie électrique ?
Influence ancienne. Et puisque je répondais il y a peu de temps à une interview sur le jazz et sur le lien entre le jazz et le livre, et je me suis posé cette question de savoir depuis quand j'écoutais vraiment de la musique, et je pense depuis l'enfance évidemment, mais sans savoir que c'était une découverte importante, ça a été tout de suite naturel, comme la peinture d'ailleurs. Et la musique, oui évidemment, elle est capitale, elle est essentielle, elle est première. Mais je n'écoute pas de musique en écrivant. J'en écoute beaucoup avant, beaucoup après, et elle est là quand je travaille.
Alors, regarder, écouter, écrire, la vision, l'écoute, la main, ce sont toujours des fonctions du corps,
oui,
que vous mettez en jeu.
Les sens. Mais je pense que c'est important d'être pas simplement dans une position intellectuelle et dans une position cérébrale, ce qui me semble pas très intéressant. Parce que la vie est faite justement de toutes ces sensations-là. Et il y a toujours ce désir, alors on y parvient ou pas, d'écrire avec toutes ces sensations-là, tout le temps.
Et si l'une fait défaut ?
Eh bien, l'autre l'aide.
Toutes ces sensations, on les retrouve dans un autre verbe qui est voyager. Voyager qui est peut-être le point de départ aussi de Vie électrique.
Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que l'impulsion est aussi la forme du livre. C'est-à-dire qu'il y a cette déprise comme ça. On quitte une partie du réel, on quitte la France et on s'aventure dans des terres inconnues. Et ça, c'est le mouvement qui aide.
C'est le mouvement du premier jour, le voyage à Berlin. Qui est en fait le dernier texte que vous ayez écrit et que vous avez placé au début.
Oui. Oui, c'est-à-dire que une fois la dernière journée du livre écrite, journée consacrée au sommeil, puisqu'après avoir arpenté les mers et les terres et les bibliothèques, il faut aussi savoir tout oublier. Et je suis assez bon pour tout oublier. Et dormir. J'aime beaucoup dormir. Et cet éloge du sommeil, il fallait qu'il soit une boucle, donc une conclusion. Et pour donner cette boucle, il fallait quand même bien le premier maillon. Et donc, c'est la dernière journée qui est la première journée, oui, à Berlin.
Une destination assez fréquentée.
Oui. Et en même temps, j'ai découvert Berlin avant que ce soit une ville habitée, oui, par une forme de jeunesse, de tourisme, de fête, de cette atmosphère un peu arty, mais qui a beaucoup changé déjà en quelques années, parce que la ville s'est métamorphosée, les endroits se sont aussi un peu uniformisés, mais heureusement, il reste beaucoup de lieux, beaucoup d'espaces qui sont encore très cachés, imprenables, qu'il ne faut pas révéler.
Il y a une autre destination qui n'est pas vraiment cachée aujourd'hui, c'est en Espagne, l'île de Formentera.
mais là, j'ai eu la chance aussi de découvrir cette île bien après tout le monde. Mais je n'ai pas connu les hippies des années 70. Mais ce que j'aime à Formentera, c'est le silence, justement. Et c'est le rien. Et en même temps, cette force espagnole.
Ouais, vous ne parlez pas des touristes, hein, mais des animaux, des oliviers et de la mer.
Oui. Oui, la journée est consacrée à une promenade en mer, en bateau, avec un pêcheur français. Et c'est une métaphore comme ça du temps, de l'écriture aussi. Mais en même temps, c'est surtout comment on part le matin pour ramener un espadon et comment on rentre le soir bredouille. Ça, c'est une expérience.
Autre destination qui, depuis Christophe Colomb, n'est pas tout à fait une découverte, l'Amérique, et en particulier New York. Mmh. Et là, à propos de New York, ce sont des figures de l'excès que vous évoquez. Par exemple, Cathy Acker, née en 1947 et morte 50 ans plus tard, ou William Burroughs.
Oui, deux figures électriques, excessives, outrancières, radicales. Mais j'ai découvert Cathy Acker en lisant Grandes Espérances. Et j'ai tout de suite été marqué par ce livre, par le fait qu'elle soit seule en même temps et que sa solitude soit pas du tout un masque ou un paravent. Elle assume exactement tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle vit. Et elle a beaucoup lu. Et en même temps, c'est pas important. Jean Genet est là. Cervantes, Dickens, évidemment, avec le titre. Mais oui, New York dans ce que ça a pu être, à mon avis, là non plus, je ne l'ai pas connu. Mais cette frénésie des années 70, cette beauté négative peut-être, mais cette beauté de Basquiat, de Warhol, de ces écrivains-là, de Burroughs. Ce que j'essaie finalement dans une des journées de redire dans ce quartier de Tribeca et autour de cette fête, de cette nuit longue et alcoolisée avec cette jeune femme qui s'appelle Suzanne. Mm-hmm. Et la musique est là aussi.
Une femme dévergondée et vraiment très drôle, dites-vous. Avec qui vous êtes beaucoup amusé.
Oui. Ben, je pense que pour être très drôle, il faut être dévergondé et inversement, sinon ça ne marche pas. Mais oui, c'est les mystères et les secrets de l'érotisme, du désir, oui.
Alors, à propos de l'excès, vous soulignez que pour dire l'excès, il faut inventer une forme.
Mmh. Ben oui, parce que si on n'invente pas un dispositif puissant, on est dans la rage, dans le ressassement, dans la litanie, dans la circonvolution, si on veut, si on est brillant. Mais ça ne fait pas littérature. Ça fait... cri, colère. Mmh. C'est un bon point de départ, mais c'est pas suffisant.
Il manque une vision.
Oui. Et une maîtrise, oui.
Vision à New York, ça vous rappelle rien?
Si, ça me rappelle quelque chose. Et la fuite d'Égypte.
Alors à New York, il y a aussi une autre figure évoquée. Le huitième jour, c'est Jacques Kerouac. Mmh. Jacques Kerouac et l'espoir avec le langage.
Mmh. Oui, ça commence, même avant Jacques Kerouac, ça commence par cette épigraphe de Fitzgerald qui dit que les prières sont des ponctuations et des rappels. Et j'aime beaucoup cette phrase, je la médite beaucoup, ces prières qui sont des ponctuations et des rappels. Et une fois de plus, le phrasé, la langue, la grammaire. Donc Jack Kerouac, qui a une langue extrêmement précise et visionnaire, oui.
Qui n'est pas forcément facile à approcher.
Non, et déjà parce qu'elle n'a pas toujours été bien traduite. Il y a une magnifique traduction de Jean Autret qui a traduit Satori à Paris, qui est un court texte, un court livre de Kerouac, qui est l'un des moins connus, qui est magnifique. et la langue est belle en français. Mmh.
Votre lecteur voyage de livre en livre, avec quelquefois des lectures qui sont des lectures de jeunesse que vous avez pu faire. Bon, c'est le cas de Flannery O'Connor.
Oui.
Je ne sais pas si vous la lisez aujourd'hui d'ailleurs. Si
toujours.
Vous la lisez encore.
Toujours. J'ai découvert Flannery O'Connor avec « Les braves gens ne courent pas les rues » et « Ce sont les violents qui l'emportent », puis après « L'habitude d'être ». Et quand j'ai lu « The Habit of Being », c'est une vraie révélation dans la volonté et la grâce jusqu'au bout, malgré les blessures, malgré la maladie. Et
la solitude.
La solitude, avec uniquement les paons et sa mère dans cette ferme de Milledgeville. Et en même temps, les conversations qu'elle entretient avec ses amis, avec Regina, avec beaucoup de jésuites à qui elle écrit, mais aussi des éditeurs américains. Elle a toujours un sens très profond de la nature, de la poésie, de savoir décrire. Parce que savoir observer, c'est une chose. Après, il faut savoir rendre dans le texte. Le dire.
Faire passer le courant.
Oh, exactement. Et elle l'a, cette chose. D'ailleurs, Kerouac n'aime pas du tout Flannery O'Connor. Mmh. Preuve que moi, je peux les aimer tous les deux.
À quoi tient cette force, cette vibration qu'on ressent à la lecture de ces phrases ?
Au détachement, je pense. Au détachement... qu'elle a eu dans la vie et que les figures qui sont dans ce livre ont aussi, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement absolu pour vivre et pour créer, et il y a aussi cette capacité de passer outre et de dire que ce n'est pas très grave.
Mmh. Il y a chez elle des fous, des criminels, des prédicateurs, des manchots, toutes sortes de monstres. Et il y a un autre monstre que vous avez rencontré en tant que lecteur, un monstre sacré, celui-là, c'est Tolstoï.
Mmh. Oui. Je me suis intéressé plutôt à la fin de Tolstoï, de voir comment cet homme, justement, décide de tout quitter, de tout arrêter, de partir. Nous sommes en 1910, il est consacré, il vit... dans cette magnifique demeure avec son épouse, et puis voilà, il part sur le chemin. Il quitte tout, la consécration, la gloire, la famille, les enfants, la vieillesse, l'enfance elle-même. Je trouve très belle cette fuite comme ça de Tolstoï, que je trouve assez rimbaldienne. Et il arrive à cette gare d'Astapovo et il va mourir. Et tout a été fait, tout a été écrit. Et il peut mourir comme un inconnu dans une gare. C'est extraordinaire.
Alors le peintre dont il faut parler, c'est Watteau, évidemment. Watteau, dont le père se prénommait Jean-Philippe, comme vous. C'est pour ça que vous avez prêté attention à ses œuvres.
Pas seulement, non. Heureusement. Non, j'aime beaucoup cet écho, oui. Que le père de Jean-Antoine Watteau s'appelle Jean-Philippe Watteau, né à Valenciennes.
Vous êtes attentif à ce genre d'écho.
Oui, attentif aux dates, attentif aux noms, attentif aux recoupements, aux choses qui semblent hasardeuses et qui pour moi ne le sont pas. Et Watteau, évidemment, c'est les deux cousines, c'est les femmes qui lisent, c'est Gilles, c'est l'embarquement pour l'île de Cythère, c'est les gravures, les dessins, la chance qu'on ait pu retrouver ce tableau perdu, qu'on retrouve grâce à Vivant Denon, le Gilles, qu'on peut voir au Louvre. Il est là.
Pour vous, c'est un ami, ce Gilles?
Oui. Un allié, un frère d'armes, un brigand, un révolutionnaire, un acteur, un nageur. Il incarne tous les rôles pour moi, ce personnage. D'une part par son élégance, par l'étoffe de son costume, ce blanc nacré, par les rubans roses qu'il a à ses chaussures. Et puis il y a la présence de l'âne, des comédiens derrière lui. On ne sait pas ce qu'est cette scène, on ne sait pas s'il est acteur, on ne sait pas s'il est un passant anonyme, on ne sait pas qui est cet homme.
Il est simplement un homme présent.
Oui.
La présence d'un homme.
Mmh. Et quelle présence ? Parce qu'il suffit vraiment de se concentrer sur son visage et de regarder ses yeux pour voir à quel point il est incarné et détaché. D'ailleurs, il est tellement incarné qu'il est détaché. Mmh. Il n'a plus besoin de jouer à être présent, il est là, point.
Avec lui, il y a une identification parfaite entre le regard et l'écoute.
Oui, l'œil écoute, disait Claudel. Oui, et puis il est une force, Gilles, je trouve, de par tout ce qu'il peut incarner dans une traversée comme ça de la vie. Je ne sais pas quel âge il a, d'ailleurs. On ne sait pas quel âge il a. Et il est sans âge.
C'est comme Mona Lisa. Hein.
Elle me touche moins. Elle est trop froide.
Mais vous dites dans votre livre qu'aujourd'hui, on repère les vivants à leur écoute de la peinture.
Mmh. Mais oui, c'est passer ce temps face à une toile, dans un musée, seul. Et vraiment de l'écouter, donc de l'entendre, d'être dans le silence. Et de regarder chaque détail, les couleurs, la forme d'un visage, d'une chevelure, d'une main, d'un animal évidemment, d'un œil, comme l'œil de l'âne dans le Gilles de Watteau, d'être attentif aux crucifixions, aux annonciations, à une déposition de croix de Pontormo, à une annonciation de Fra Angelico, oui, mais aussi... à Autodix et à Georg Grosch et à tous les grands primitifs, Memling. De voir aussi comment tout ça se joue dans la réception du texte, comment la peinture fait écho évidemment à l'Ancien Testament, à la Bible, mais aussi aujourd'hui à la littérature. Je trouve que c'est important, oui.
Vie électrique, le livre de Jean-Philippe Rossignol est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Philippe Pallares, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.